On est en train de continuer une petite étude sur la recherche de Dieu, pour apprendre à rechercher Dieu, pour décider même de commencer à rechercher Dieu ou pour continuer à rechercher Dieu. Pourquoi qu'on a besoin de Dieu dans notre vie, pouvez-vous me le dire?
Pour rester connecté.
Pour rester connecté, pour nous renforcer. Y a-t-il d'autres choses que Dieu veut faire?
Pour nous guérir.
Pour nous guérir. Pour faire sa volonté, on peut pas rien faire sans Dieu. Jésus l'a dit, sans moi, vous pouvez pas rien faire. Tu peux faire une religion, tu peux faire une belle activité en famille, mais si tu veux vivre des choses avec Dieu, faut que tu t'approches de Dieu, faut que tu cherches Dieu, faut que tu le recherches de tout ton cœur. On a vu plusieurs points là-dessus aujourd'hui. On va voir un autre point pourquoi qu'on devrait rechercher Dieu. C'est afin qu'il nous délivre de nos ennemis. On va voir dans cette, parce qu'il va y avoir quatre messages dans cette série-là sur rechercher Dieu pour qu'il nous délivre de nos ennemis. Saviez-vous, je vous pose la question, est-ce que des chrétiens, ça a des ennemis? Première question que je dois savoir. Jésus, il dit, qu'est-ce qu'il dit de faire avec nos ennemis?
Les aimer.
Là, on parle des ennemis humains, qu'on doit apprendre à les aimer, leur rendre des services, prier pour eux autres, les bénir. Mais on va apprendre qu'on a des ennemis qu'on n'est pas obligé de bénir. On va apprendre qu'on a des ennemis qu'il faut même les fuir, leur résister, les combattre, aller chercher à force de Dieu, même s'en sortir, parce que c'est même, ça peut être plus fort que nous. La Bible nous parle qu'il y a des ennemis, non seulement contre les chrétiens, mais contre l'ensemble du monde entier, qui agissent présentement pour détruire l'humanité. Comment Dieu a-t-il prévu de nous délivrer de nos ennemis? Est-ce que la Bible parle de cela dans le Nouveau Testament? Oui. La première prophétie du Nouveau Testament qui s'est comme été prophétisée, puis ça a eu un accomplissement à travers la venue de Jésus. Je ne parle pas d'une prophétie de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a parlé à travers de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Lorsqu'il a reçu la nouvelle qu'il était pour avoir un enfant, il est tombé muet. Sur le coup, il n'avait pas cru. Mais quand sa bouche a été ouverte par la suite, quand il a voulu dire le nom de son fils qui était pour être Jean, il a été rempli du Saint-Esprit, puis il a eu une prophétie. Écoutez bien les paroles de cette prophétie. Puis ça parle à propos de son fils qui était pour préparer le chemin de Jésus. Dans Luc 1, le verset 71, à partir du verset 71 jusqu'à 75, il nous dit « Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis ». Dans la prophétie de Zacharie, ça nous parle que Dieu était pour envoyer un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de la Sainte Alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Voyez-vous, ça c'est basé sur des écrits de l'Ancien, mais c'est une prophétie poussée par le Saint-Esprit que Dieu nous envoyait un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Il est en train de prophétiser que Jésus, sa venue, était pour être, pour nous délivrer de nos ennemis. Puis là, si on continuerait à la prophétie, on verrait que Jean-Baptiste est envoyé, son enfant est envoyé dans le but de préparer la venue de ce sauveur-là qui nous délivrerait de nos ennemis. Dieu, j'ai une bonne nouvelle, il a prévu de nous délivrer de nos ennemis. Quels sont les ennemis des chrétiens et du monde entier? Le diable et ses démons. Le monde, notre chair, le péché. Quatre ennemis du chrétien, c'est des ennemis je dirais pas jurer, parce qu'on jure pas, là, mais c'est des ennemis déclarés par la parole de Dieu, puis vous allez le voir, tous les versets qu'on va voir. Puis Jésus est venu pour nous délivrer de la main de nos ennemis. Il veut nous donner la victoire sur nos ennemis. C'est ce qu'on a chanté tout le long un matin. Dieu veut nous donner la victoire sur nos ennemis. Puis on voit que Dieu nous appelle, nous, les chrétiens, à combattre, puis les récompenses sont pour les vainqueurs. Vous savez que présentement, on est en guerre, il y a une guerre dans ce monde, c'est la guerre entre Dieu et les forces des ténèbres. Dieu est en train d'œuvrer pour pouvoir amener les gens, sortir les gens de l'emprise de tous ses ennemis. Dieu a des ennemis dans ce monde, puis ses ennemis maîtrisent, contrôlent l'ensemble de la planète, puis les tiennent dans la perdition. Dieu est venu et a envoyé son Fils, il est venu sur cette terre pour venir nous donner la victoire sur les ennemis, nos ennemis, tous ceux qui sont là pour essayer de nous combattre, nous résister. Puis Dieu, il veut plus que ça, il veut récompenser ceux qui vont avoir la victoire. Dans Apocalypse 21, verset 7, il dit, c'est celui qui vaincra, qui irritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Dieu nous propose de nous donner la victoire sur nos ennemis. Puis il dit, si vous recevez cette victoire, si vous saisissez cette victoire, vous allez être de ceux qui vont vivre la vie sans fin. Puis on a une bonne nouvelle à savoir ce matin. C'est que la victoire est déjà acquise par Jésus. Jésus a déjà vaincu tous nos ennemis. Puis il nous a déjà donné tout ce qui nous était nécessaire pour qu'on marche dans la victoire. Toutes ses promesses sont là, sont accomplies, puis sont données pour tous ceux qui s'approchent de lui. Dans Romains 8, le verset 37, ça nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » C'est qui ça qui nous a aimés? C'est Jésus. Jésus nous a aimés par cause qu'il nous a aimés. Dieu nous a aimés. On est plus que vainqueurs. Le fait d'apprendre qu'on est en guerre, puis le fait d'apprendre qu'on a un combat à livrer, puis le fait d'apprendre aussi que Jésus nous donne la victoire, c'est quelque chose qui s'apprend, parce que c'est pas quelque chose qu'on vit au monde avec cette connaissance-là. C'est quelque chose qui vient pas de ce qu'on voit autour. Ça vient de la révélation de Dieu. C'est Dieu qui nous enseigne ces choses-là. Puis pour arriver à comprendre l'ampleur de ce combat-là, mais il faut aller lire la Bible. Il faut l'étudier pour voir ce que la Bible dit à propos de nos ennemis. Le premier ennemi qu'on va voir aujourd'hui, c'est le diable et ses démons. J'espère que je vous apprends pas que le diable existe, parce que je pense que c'est une des premières choses qu'on apprend quand on est chrétien. Dieu est là, il avait créé le monde invisible, puis dans le monde invisible, il avait créé toutes sortes de créatures, des séraphins, des chérubins, des archanges, des anges, sont là dans le monde invisible, puis ils vivaient une histoire avec Dieu. Mais dans le ciel, dans le monde invisible, il y a une rébellion. Satan, qui est un chérubin, il s'est rebellé contre l'autorité de Dieu, puis il y a un tiers des anges qui l'ont suivi. Là, il y a une guerre présentement entre les anges de Dieu puis les anges de Satan, le diable, notre adversaire. Parce que le diable, ça veut dire le calomniateur, Satan, ça veut dire l'adversaire. Fait que Satan, c'est le diable. Il est là comme étant l'ennemi de tous les croyants, puis pas juste l'ennemi des croyants. Il est l'ennemi de Dieu, premièrement, ensuite des croyants, puis il est l'ennemi aussi de tous les êtres humains sur cette terre. Si les gens ne réalisent pas que le diable existe, ils sont quand même dominés par le diable, puis le diable est en train de les amener dans l'étang de feu, où ce que le diable va être jugé lui-même. Dans le monde invisible, ça le dit, je vous le dis, c'est le monde invisible, on ne le voit pas de nos yeux, on n'a pas vu cet ennemi de nos yeux. Combien est-ce qu'il y en a ici qui ont vu Satan de leurs yeux? Peut-être une révélation, tu as vu une révélation de Satan?
Ben, je veux dire, de mes
de tes yeux. Tu as vu Satan ou tu le sais qu'il est là, puis tu as vu, parce que sont rares ceux qui ont vu le diable dans peut-être dans un songe, peut-être d'une révélation, mais on apprend à comprendre ce qui se passe. Peut-être, mais principalement, ça, toutes nos révélations qu'on a viennent de la parole de Dieu. Fait qu'en lisant la Bible, on apprend à connaître cet adversaire-là parce que c'est un adversaire très intelligent, très rusé. Il y a des stratégies. Le mot rusé, ça veut dire stratégie. Il y a des stratégies qui sont en place pour garder le monde dans le péché, puis en plus de ça, séduire, tromper, mêler, compter des mensonges. Puis, il part des nouvelles religions, puis là, il entraîne une multitude à se rebeller contre l'autorité, contre la révélation de Jésus. Nous sommes présentement en guerre contre un ordre céleste qui exerce une opposition contre tout être humain. Parce que le diable n'attaque pas juste Dieu, ni les anges de Dieu, ils attaquent aussi les chrétiens, puis ils attaquent aussi le peuple juif, puis ils attaquent aussi le monde. Ils attaquent l'ensemble de l'humanité, puis ils essayent de garder une emprise sur les gens. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, ça nous dit, à nous qui sommes chrétiens, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Quand ça va mal dans notre vie, c'est pas contre les humains qu'il faut se battre. Même si c'est un humain qui est venu me dire une parole qui me déplaisait, c'est pas contre les humains qu'on se bat, c'est contre les esprits qui sont en arrière de cet humain-là. Ça nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qu'il y a dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre les humains, mais ça veut dire, nous avons à lutter contre les esprits méchants. Ouais. Est-ce qu'on a réalisé qu'on était en combat, qu'on était en lutte, qu'on était en guerre, qu'on avait des coups à donner, puis des fois on mangeait des coups? On a-tu compris que le monde invisible est là, puis il nous attaque régulièrement? Peut-être si on ne l'a pas réalisé, il est encore temps, on est encore sur la terre, il est encore temps de réaliser qu'on a fait face à ces esprits-là qui sont là, les esprits menteurs, les esprits méchants, des esprits qui sont là pour nous tenter, pour nous induire en erreur, pour nous entraîner où ce qu'on ne doit pas aller. Puis il est important, comme que je dis le début, le message, c'est de rechercher Dieu afin qu'il nous délivre de nos ennemis. Là, on peut dire, ouais, attends, mais je le vois et je vais le pogner par le collet. Je sais pas comment vous allez réussir à pogner le diable par le collet, mais vous pouvez pas physiquement avoir un impact sur sa vie, ni sur rien qu'est-ce qu'il fait. Fait qu'on a réalisé que notre combat, il est contre quelque chose d'invisible, puis on a à combattre dans l'invisible, mais avec les armes qui viennent pas de notre corps. Ça vient de Dieu. Les armes qui viennent de Dieu pour combattre. On était averti de la présence de cet ennemi redoutable. On voit ça dans 1 Pierre 5:8. Ça nous demande, à nous, dans ce passage-là, d'être sobre, de veiller. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Fait qu'on a affaire à un adversaire redoutable, qui est sans pitié. Même si on arrive à Dieu, « Ah, ben je le savais pas. » On n'a pas d'excuse. Il fallait le savoir. Puis il fallait combattre pour s'en sortir. Le combat, il dit, on n'a pas à lutter contre les humains, on a à lutter contre les démons. Il faut que tu le saves que tu as à lutter. Puis ils sont là pour te mêler. Puis il y a une place que la vérité est écrite, c'est dans la parole de Dieu. Il est important qu'on y aille, qu'est-ce qui est écrit là, qu'on réalise qu'on est dans le combat, puis qu'on commence à se battre, à résister. Et on va le voir plus loin, il y a des choses qu'il faut faire en tant que chrétien. Mais lui, il joue pas, il cherche, il s'est dit, votre adversaire, le diable, c'est pas notre ami, c'est pas notre chum, puis il joue pas. C'est un adversaire qui est là pour nous démolir, nous détruire. S'il est capable, il veut nous emmener avec lui dans le jugement éternel. C'est pas des farces. Il nous amenait dans le jugement éternel avant qu'on connaisse Jésus. Mais à cause de Jésus, on est sorti de son royaume, puis on est maintenant dans la victoire. Mais il faut apprendre à résister et à combattre pour pas perdre en se faisant voler nos promesses par l'ennemi. Il dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je sais pas si l'image... Elle peut être plus forte que ça. Si les dinosaures existeraient, il aurait dit, il rôde comme un tyrannosaure rex, qui sont les plus redoutables carnivores qui existaient dans ce temps-là, pour essayer de dévorer. Hein, s'il y aurait eu un animal plus féroce qu'un lion, mais il l'aurait sûrement écrit. Un lion, quand il y avait un lion féroce en dehors, dehors, tu sors pas dehors quand il y a un lion. Un lion joue pas. Quand tu rencontres le lion, t'as le choix de partir ou t'en aller. T'es mieux de fermer la porte. Mais on fait des farces, mais le diable, il est comparé à un lion qui cherche à dévorer les gens. Nous, on a de la misère à comprendre la profondeur parce qu'on n'en connaît pas de proches qui ont été dévorés par les lions parce qu'il n'y en a pas de lions ici. Mais quand tu as des lions en liberté dans l'endroit où tu vis, tu sais c'est quoi la crainte qu'on doit avoir des lions. Mais le diable, c'est la même affaire. Faut craindre, pas le craindre dans le sens puis commencer à faire tout ce qu'il nous demande, pas du tout. On va réaliser qu'on a une autorité supérieure à la sienne, on doit résister. Jésus, il était loin, comme j'ai dit la semaine passée, il avait reçu une onction pour venir guérir les malades. Mais Jésus a été aussi loin, il a reçu une onction quand il a commencé son ministère, pour délivrer les captifs. Qu'est-ce que c'est qu'un captif? C'est quelqu'un qui est pris au piège. Un captif, c'est quelqu'un pris dans un piège. C'est un animal qui est pris dans un piège, il est rendu captif. Ou pris dans une cage. Un animal en cage, il est captif. Être captif, c'est être enchaîné, comme un prisonnier qui a des chaînes aux mains et aux pieds, puis la chaîne est attachée avec un anneau dans le ciment, puis tu peux pas bouger, tu es captif, en captivité. Mais Jésus, c'est ça qui est la bonne nouvelle, il a reçu l'onction du Saint-Esprit, la puissance qui était nécessaire pour délivrer les captifs. Ça veut dire qu'il veut rendre libre tous ceux qui sont enchaînés ou tous ceux qui sont dans les cages. Il y a toutes sortes de cages qui retiennent les gens présentement. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de la cage que le diable et ses démons font aux gens qui sont captifs par le diable, puis que les gens ont besoin de réaliser que Jésus peut nous donner une délivrance, nous libérer de nos chaînes. Jésus, quand on a su qu'il avait reçu l'onction, il l'a mentionné lui-même dans Luc 4, le verset 18. Ça, c'est quand il était dans le temple, puis qu'il a déroulé le livre, puis il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Là, il dit, il y a plusieurs onctions que Jésus a reçues. Il a été oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il est envoyé aussi pour guérir. Il a été oint pour guérir l'âme. Le cœur brisé. Et il était loin pour proclamer aux captifs la délivrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus rencontre une personne qui est captive, Jésus a l'onction, la puissance pour déclarer « Sois libre ». Puis en le disant, la porte s'ouvre, les chaînes tombent, tout est cassé. Jésus a juste à le prononcer, puis les captifs sont délivrés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. On a le nom qui libère. C'est le nom de notre Seigneur. Celui qui était loin pour nous délivrer. Ça nous dit un petit peu plus loin. Il proclame aux captifs d'être libres. Puis il dit aux aveugles de recouvrir la vue. Ça, il y avait l'onction de la guérison. Pour renvoyer libres les opprimés. Qui sont les opprimés aujourd'hui, sinon ceux qui sont opprimés par les ennemis? Jésus, la bonne nouvelle, est envoyé pour nous délivrer de nos ennemis. Il veut nous renvoyer libres, les opprimés, en nous débarrassant de celui qui nous opprime, puis il dit, va, t'es libre. Maintenant, Jésus, on peut devenir libre de nos ennemis. Alléluia! Jésus a parfaitement accompli son ministère terrestre en démontrant sa puissance. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans Actes 10, 38, ça nous parle de Jésus. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Fait que partout où Jésus allait, tous les démoniaques étaient délivrés, tous les gens qui étaient sous une oppression du diable, que ce soit dans une maladie ou des oppressions mentales ou des infirmités, ou peu importe ce que l'ennemi faisait subir à une personne, quand Jésus passait à côté d'une personne qui avait un mauvais esprit après lui, il déclarait la liberté. Va, t'es libre. Femme, t'es délivrée de ton infirmité. Aussi simple que ça, la puissance de Dieu agissait, la personne était libérée de l'attaque du diable. Ça dit tous ceux qui... Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il n'y a pas un seul esprit qui peut résister à la puissance de Jésus, à l'onction de Jésus. Parce que, ça nous dit, Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui peut s'opposer à Dieu?
Personne.
Faut le croire. Faut le croire. Ça, on va le voir dans les points un peu plus loin. C'est un des premiers points qu'il faut arriver. Faut y croire notre position en Jésus. En mourant, oui.
Et c'est même lui qui l'a créé.
Oui. J'ai vu une photo sur Internet à un moment donné, mais je l'avais déjà vue avant. Tu vois un dessin comme Jésus qui est en train de tirer au poignet avec le diable. Oubliez ça, ça n'a aucune valeur, ça se compare même pas. Le diable, maintenant, même si tu le mettrais à la taille d'un humain, le diable, Dieu, Jésus remplit l'univers au complet, puis l'univers est assez grand pour contenir Jésus. Tout est créé en Jésus. Il n'y a pas de comparaison entre la puissance de Satan et Jésus. Ça se compare pas. C'est toute démenterie pour nous faire accroire que Jésus serait à peu près de la taille à Satan puis qu'il pourrait tirer au poignard. Ça n'existe pas. C'est un mensonge. C'est pour mêler les cartes que ce dessin-là a été fait. Le diable n'est pas de taille contre, même pas contre Michel qui est le chef des anges. Michel et ses anges, ils vont le jeter en bas. Ils l'ont jeté en bas quand Jésus a remporté la victoire. Ils l'ont débarqué du ciel, ils ont fait une guerre, puis ils ont eu la victoire. Dieu est beaucoup plus puissant, ça se compare pas en comparaison. Fait que, en mourant sur la croix, faut comprendre que Jésus a accompli quelque chose dans le but de nous délivrer de notre principal ennemi, le diable. Quand que Jésus est mort sur la croix, il a triomphé contre les puissances des ténèbres. Ça, il faut le savoir, frères et sœurs, que le diable, c'est un vaincu. Il a régné sur la terre, sur l'ensemble de l'humanité, pas parce qu'il était plus puissant, pas parce qu'il était tout puissant, parce que les humains l'ont laissé faire. Parce que Jésus est venu, puis il l'a vaincu, puis tous ceux qui vont à Jésus le vainc. On obtient la victoire pour le vaincre. Le diable n'a pas d'emprise sur nous. Il y a juste la mesure de l'emprise que vous allez lui laisser faire. Parce qu'on a en Jésus une complète victoire. Puis nous pouvons marcher, on va le voir dans d'autres versets, sur toute la puissance de l'ennemi. Puis rien ne peut nous nuire. On peut se faire attaquer. Mais on est dans la puissance qui renverse, qui a déjà renversé et écrasé et triomphé de toute la puissance de l'ennemi. Nous sommes dans la puissance de Dieu. Pourquoi qu'on est dans la puissance de Dieu? Parce que Dieu est avec nous. Pourquoi que Dieu est avec nous? Parce qu'on est à Jésus. Quand tu as reçu Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu Dieu le Père, Dieu est en toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En mourant sur la croix, Jésus a triomphé contre toutes les puissances des ténèbres. Dans Colossiens 2,15, ça nous dit cette révélation, que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. C'est ce que je vous ai dit au début, qu'on luttait pas contre les humains, on lutte contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre ça qu'on se bat. Puis il dit, Jésus les a dépouillés. Dépouillés, c'est de les enlever leur peau. Tout ce qui pouvait être comme leurs armures ou leurs armes, ils sont désarmés. Ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus de puissance. Ils n'ont rien pour gagner. Ils continuent à gagner sur les humains parce que ces humains-là le laissent gagner. Ça dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. En mourant sur la croix, Jésus venait de vaincre la puissance des ténèbres, puis le jugement du diable est tombé sur lui, puis il a été jeté dehors, en dehors du trône, puis il court présentement sur cette terre, c'est la seule place qui reste temporairement, jusqu'à temps que Jésus revienne pour le prendre puis l'enfermer pendant 1000 ans. En attendant, il y a encore du lousse, il fait encore du ravage, mais ça permet à Dieu de faire le tri entre ceux qui lui appartiennent puis ceux qui appartiennent au diable. Mais on a des bonnes nouvelles. Jésus a remporté la victoire en mourant sur la croix. Il a dépouillé les puissances des ténèbres puis il a triomphé d'eux en ressuscitant d'entre les morts. Le diable se servait du péché pour garder les gens dans la mort. Puis maintenant, à cause du sacrifice de Jésus, nous avons la possibilité de ressusciter d'entre les morts puis de ne pas être jugé pour nos péchés. Le diable n'a plus d'armes pour se confier, pour nous tenir captifs. Le péché est pardonné en Jésus. Quand tu confesses tes fautes, il te pardonne. Le diable n'a plus de poignée pour te saisir parce qu'il te saisissait par tes péchés. Si tu veux, tu peux être libre puis de marcher en courant sans être enchaîné, parce qu'il nous gardait captifs auparavant. Pendant Jésus, il nous pardonne, il nous purifie de nos péchés. Maintenant, nous sommes libres de courir, en autant qu'on ne rechute pas dans les mêmes choses qu'on était auparavant. Mais Jésus, pour en donner sa puissance au reste de son royaume, à ses habitants, il a commencé par les 12 apôtres. Il a donné son autorité, l'autorité d'être au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Il a donné son autorité aux 12 apôtres. On voit ça dans Matthieu chapitre 10, le verset 1. Ça nous dit, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Fait que les apôtres, ils ont reçu le pouvoir de guérir les malades, mais ils ont reçu le pouvoir aussi de chasser les esprits impurs. Fait que les apôtres, dès leur commencement de leur ministère, ils ont commencé à combattre contre le diable, puis ils annonçaient la bonne nouvelle, puis quand ils rencontraient quelqu'un qui était lié, capturé, piégé, ils prenaient autorité dans le nom de Jésus, puis ils brisaient les chaînes. Ils demandaient... Dans leur mandat, c'était, il est envoyé dans le but de délivrer les gens. Après ça, Jésus a envoyé les 70 disciples dans le même mandat. J'en ai parlé la semaine passée, les 70 avaient reçu le don de guérir les maladies aussi. Mais les 70 disciples envoyés pour évangéliser avaient aussi le pouvoir sur les démons. Dans Luc 10, le verset 1. Ça nous dit, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, puis les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller. » Puis là, quand ils sont revenus, ces 70 disciples-là, dans Luc 10, à partir du verset 17 à 21, les 70 disciples revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Fait que les 70 disciples, ils ont réalisé que la puissance du Seigneur était sur eux, puis ils pouvaient chasser les démons eux aussi. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Là, Jésus continue, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Puis là, il dit, « Réjouissez-vous pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Mais on doit quand même le savoir que les esprits nous sont soumis. Nous marchons dans l'autorité du nom de Jésus. Est-ce que ça a été donné à d'autres que les 70 disciples de pouvoir de chasser les esprits? Tous les disciples qui marchent par la foi peuvent aussi exercer leur autorité et saisir les délivrances. Dans Marc 16, les versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Est-ce que ça s'adresse juste aux 12 ou aux 70? Ça s'adresse à tout disciple. Tout disciple qui aura cru en son nom, dans le nom de notre Sauveur, Yeshua Yamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Ça aurait pu être Josué, la traduction, mais le nom de notre Seigneur est le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans le ciel, il y a des hiérarchies. Le nom numéro un, c'est Yeshua, Jésus.
C'est le roi,
le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Toute langue va confesser que Jésus-Christ est seigneur. Même les démons. Les disciples reviennent. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Là, les disciples arrivent et invoquent le nom du Seigneur. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, t'invoques le nom qui est au-dessus de tout nom sur une personne. Les démons, ils se sauvent. Ils ont peur. Ils restent pas là. Ils sont soumis. Il lui dit, je t'ordonne de t'en aller. Arrière de moi, Satan. Peu importe qu'est-ce que tu dis. Il s'enfuit. Il y a un verset dans l'Ancien qui est beau là-dessus. Il dit, quand même l'ennemi se lèverait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Pourquoi que l'Esprit de l'Éternel travaille avec nous? Parce qu'on invoque le nom de celui qui est en autorité sur toute chose. Merci Seigneur de cet accès qu'on a aujourd'hui de pouvoir y croire que le sacrifice de Jésus nous donne plus que juste être pardonné de nos péchés. On peut, si on le veut, avoir la victoire sur nos ennemis.
Nous sommes plus que vainqueurs.
Ça ne veut pas dire qu'on est automatiquement vainqueur. Là, il y a une petite nuance. Il faut réaliser qu'il y a une nuance. Il y a tout mis là ce qui nous permettait de marcher dans la victoire. Mais ça nous dit aussi, prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que si on résiste pas, on est assujetti au combat, on perd la victoire, puis on reste encore en dessous. Il faut réaliser qu'on a un combat à livrer, qu'on a à se battre, qu'on a utilisé les armes de Dieu, ben, prendre l'épée de l'esprit puis le bouclier de la foi, l'armure du chrétien, commencer à se battre avec la parole de Dieu. Puis il vient nous dire des mensonges, il essaye de nous entraîner dans le péché, il essaye de nous tromper, nous mêler. On sert de versets de la Bible. Jésus s'en est servi des versets de la Bible. Qu'est-ce qu'il leur a dit au diable? Il est écrit. Fait qu'il faut, les chrétiens, il faut qu'ils apprennent la parole de Dieu. C'est un épée. C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Puis on a à combattre contre le diable avec l'épée du Seigneur qui nous a donné. Et où votre épée aujourd'hui? Et là, votre épée. On devrait pas juste l'avoir là. On devrait l'avoir ici. Puis ici. La comprendre, puis y croire. Puis là, après ça, on s'en sert. Il est écrit. Tard. Quand tu en donnes un, c'est tard. Qui? Il saute. Mais pour obtenir les victoires, il faut combattre. Puis pour combattre, il faut premièrement réaliser notre position en Jésus. Colossiens 1, versets 12 et 13. Si vous avez des Bibles, c'est le temps de l'ouvrir. C'était le temps au début de la réunion aussi, mais là... Parce que c'est un beau verset qui nous fait comprendre une profonde vérité. Colossiens 1, 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. » On était tous incapables d'avoir quoi que ce soit de Dieu. Mais il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci Seigneur de m'avoir rendu capable d'avoir part, avoir une part pour moi. Puis vous avez une part pour chacun de vous dans le royaume de la lumière, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il y a un héritage pour les saints. D'avoir notre part là, puis rendez gloire au Père de vous avoir rendu capable, de nous avoir rendu capable. Mais il fallait qu'il fasse de quoi pour nous rendre capable. Dans ce verset-là, au verset 13, ça dit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a sortis du royaume des ténèbres. » C'était à qui le royaume des ténèbres? C'était le royaume du diable, de Satan. On était dedans avant de venir à Jésus. On était enchaînés, on était dans des cages, on était capturés par le diable, on était nés comme qu'il le voulait avant qu'on aille à Jésus. On était aveuglés, on savait pas où s'en allait, qu'est-ce qu'on avait comme sort éternel à la fin. Mais Jésus, il est venu par le Saint-Esprit, il nous a appelés. Puis il nous a dit, viens, crois. Puis là, quand on a dit, Seigneur, je suis perdu, je suis pécheur, je suis lié, je veux sortir de cette vie-là. Je crois que t'es mort sans croire pardonner mes péchés. Puis je t'accepte comme mon sauveur, puis je veux changer de vie. Mais à partir du moment que tu te repens, puis tu confesses ta foi en Jésus, puis tu veux te convertir, mais le Seigneur il dit, parfait. Il pardonne tous tes péchés. Il te sort du royaume des ténèbres où ce que le diable a toutes ses chaînes, ses cages, ses chaînes, puis les liens. T'es sorti de là. Il nous lave par son sang, puis il nous transporte dans son royaume. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a emmenés dans son royaume de la lumière. Quelle est notre position maintenant en Jésus? On n'est plus là, on est rendu là. Le savez-vous, vous êtes des enfants de Dieu, des gens de la maison de Dieu, que vous êtes des enfants de lumière, que vous faites partie du royaume éternel, du royaume céleste qui vient. On est déjà changé de camp, on a une nouvelle position en Jésus. Nous sommes des envoyés, des ambassadeurs. au même titre que les 12 apôtres puis que les 70 disciples, et que tout disciple qui marche dans une nouvelle foi, on a un nouvel environnement. Jésus nous a donné l'autorité et le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Le diable ne peut rien en nous. On est lavé, on est délivré, on est pardonné, on est rempli de la puissance de Dieu. On marche avec l'Esprit de Dieu, on marche avec Dieu sur cette terre. Le savez-vous, votre nouvelle position? Mais pour avoir les victoires sur le diable, faut que tu réalises que tu as cette position-là. Parce que quand le diable vient t'attaquer, si tu ne sais pas que tu es au-dessus de lui, parce que tu es dans un nouveau royaume, puis que tu as reçu cette autorité-là, tu n'oseras pas dire, je t'ordonne au nom de Jésus de t'en aller. Jésus l'a combattu, le diable. Les disciples l'ont combattu. Même le diable, un coup, est venu à travers d'un apôtre pour parler à Jésus. Puis Jésus a dit à l'apôtre, arrière de moi, Satan. Puis c'est à l'apôtre Pierre. Ça veut dire que le diable peut agir, parler à travers de n'importe qui, même de vos êtres chers qui vous environnent. C'est pas contre les êtres humains qu'on a à se battre, c'est contre l'esprit qui est en arrière. C'est celui-là qu'il faut combattre. Lorsqu'on réalise notre position en Jésus, on peut avoir on peut commencer à comprendre qu'on peut marcher dans la victoire. Parce que dans la suite de ta marche, là, ça peut se compliquer si tu ne le sais pas. Mais si tu le sais, tu peux demeurer dans la victoire et résister dans les mauvais jours. Là, Dieu a commencé un œuvre à partir du moment que tu as changé de royaume. Il a commencé un œuvre pour te délivrer, te transformer. Avez-vous été délivré de tous vos péchés, de toutes les tentations de votre chair, de toutes les convoitises de ce monde, puis de délivrer de toute la puissance des ténèbres sur tous les points dans votre vie à la conversion? Non. Le Seigneur commence le ménage, il te délivre déjà, tu as déjà des victoires dans ta vie sur certaines choses, puis il y a un combat qui est commencé, puis c'est dans le plan de Dieu de nous, pas qu'il fait exprès, de nous laisser de même, mais il veut nous apprendre le combat, il veut nous apprendre à se battre, il veut nous apprendre à s'accrocher à lui. Après ça, dans la prière du Notre Père, qu'est-ce que Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6, 13? Il nous demande, parce que le titre du message, c'est « Rechercher Dieu afin qu'il te délivre de tes ennemis ». Dans la prière du Notre Père, ça nous dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Un chrétien doit apprendre qu'il y a un combat. Puis qui doit apprendre que c'est Dieu le Père qui peut le délivrer de tous ses ennemis. Puis dans ce contexte-là, ça délivre nous du malin, c'est de nous délivrer des pièges du diable, de ses combats, ses luttes. Dieu peut nous donner la victoire dans tous les domaines de notre vie.
Amen.
Oui, il est venu pour nous délivrer, de nous donner la victoire sur tout, mais il veut qu'on apprenne à le rechercher, lui, pour nous recevoir notre victoire. Pensez pas de vivre la vie chrétienne sans Dieu. Faut que j'apprenne à rechercher Dieu pour qu'il vienne me délivrer de tous mes ennemis, le diable compris. Après ça, quand tu réalises que Dieu est avec toi, il t'a changé de royaume, tu demandes à Dieu de te guider dans tes combats, puis tu marches dans la victoire, point par point. T'apprends à résister. Les chrétiens ne doivent pas se laisser faire, se laisser manger la laine sur le dos. Dans Jacques 4, 7, ça nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, puis il fuira loin de vous. » Nous avons à apprendre à combattre, à résister, à dire non, à mettre un arrêt sur certaines choses. C'est pas automatique. Les choses n'arrêtent pas tout seul. Jésus a fallu qu'il prononce des paroles, puis là il dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit ». Il a dit de s'en aller, puis il a dit un verset pour combattre. La victoire s'obtient si on résiste, si on combat. Faut apprendre le combat, frères et sœurs. Si je vous pose la question, quand est-ce la dernière fois que vous avez vu le diable agir dans votre vie?
Il n'y a pas longtemps.
Il n'y a pas longtemps?
Le matin, dans l'église.
Le matin? Ben, il est là, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Il connaît tous nos points faibles. Puis ça nous dit à combattre contre les ruses du diable, ses manœuvres, ses stratégies de séduction, mais autant de pièges, des manigances pour essayer de nous faire tomber. On peut en avoir à chaque jour, on peut en avoir toutes les semaines, ça c'est sûr. Il y a toujours quelque chose qu'on reçoit comme mauvaise pensée ou tentation, ou etc. La Bible, elle nous explique quelles sont nos armes afin qu'on devienne victorieux. Il y a des armes de détailler dans la parole de Dieu, puis un chrétien doit réaliser, comme j'en ai parlé un peu tantôt, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre des traits enflammés du malin, l'épée de l'esprit, que c'est la parole de Dieu, le casque du salut. Ils décrivent une armure, puis quand ils décrivent cette armure-là, ça nous explique que c'est dans le but de combattre contre le diable, dans Éphésiens 6, 11. Ça nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Fait que ces pièges, ces manigances, faut être capable de tenir ferme pour pas tomber dans ces tentations. Puis au verset 13, c'est la même chose. C'est pourquoi « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour puis tenir ferme après avoir tout surmonté. » Un autre passage que ça nous parle justement des pièges du diable, dans 2 Timothée 2:25, ça nous dit qu'on doit apprendre, en tant que serviteur de Dieu, à redresser nos adversaires avec douceur. Ça veut dire que tu rencontres quelqu'un qui est en haut prise avec des liens sataniques dans sa vie. Il dit, faut-tu être capable de leur répondre avec douceur à tes adversaires? Puis là, t'as l'espoir que Dieu va leur donner la repentance. Puis là, après ça, ils vont rentrer dans la connaissance de la vérité. Puis après ça, ils vont être revenus dans leur bon sens. Ils vont se dégager des pièges que le diable s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Tout ça pour nous apprendre le combat spirituel. Je dois réaliser qui ce que je suis en Jésus, ma nouvelle position. Je dois demander à Dieu de nous guider dans nos combats. Je dois résister quand que je me fais attaquer. Je dois me revêtir de toutes ces armes. Puis quand il arrive des situations où tu rencontres des gens qui sont liés, faut que tu sois capable de répondre avec douceur puis commencer à lui donner la vérité pour que les gens se dégagent des pièges du diable. Êtes-vous conscient de la victoire qu'on a en Jésus? Le savez-vous, votre position en Jésus? Maintenant, vous devez croire que vous êtes déjà dans la victoire. Le verset que je vous ai lu au début de la réunion, c'est le même verset que je vous relis, c'est le dernier verset pour aujourd'hui, dans Apocalypse au chapitre 12, les versets 10 et 11. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut y est arrivé. » Ça a été crié dans le ciel, dans la vision prophétique. C'est « Maintenant, le salut est arrivé. » Jésus a déjà accompli ce qui était nécessaire. « Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. » Il a été précipité quand? Quand Jésus a ressuscité d'entre les morts. Jésus, avant de mourir, il a dit, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jésus, il a ressuscité dans l'Apocalypse au chapitre 13, je pense, ça nous dit, 12, ça nous parle du diable qui a été saisi par Michel, le chef des anges et son armée, puis ils ont précipité le diable sur la terre. Le diable, depuis ce temps-là, il a sa sphère d'activité. Il est sur la terre, puis il cherche à détruire l'œuvre de Dieu. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que la victoire a déjà été accomplie par Jésus. Puis c'est ce diable-là qui nous accusait jour et nuit devant le Père. Il a été précipité. Puis maintenant, nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage. Le croyez-vous que vous êtes en Jésus? Le croyez-vous que vous êtes dans le royaume de la lumière? Le croyez-vous que vous êtes en autorité contre la puissance des ténèbres? Le croyez-vous que vous avez toutes les armes de Dieu qui sont données dans la parole de Dieu? Êtes-vous prête à commencer le combat puis dire, « Seigneur, délivre-nous du mal, conduis-nous. » Autrement dit, on a besoin de toi pour que tu nous conduises pour remporter la victoire sur nos ennemis. Le voulez-vous?
Oui.
Mais vous êtes déjà dans la victoire. Juste le fait que vous le savez, vous pouvez déjà utiliser tout ce qu'il vous a donné. Il dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de votre témoignage. » Vous venez de le confesser, vous déclarez, « J'ai l'autorité. » Puis quand vous allez le voir venir, tantôt ou demain, « Arrière de moi, Satan, j'ai l'autorité de te chasser. » Que ce soit des mauvais rêves, que ce soit des tentations, que ce soit des épreuves, des oppressions, tu te sens mal. Souvent, vous pouvez avoir mal à une place, là, puis c'est l'ennemi qui vous fait mal. C'est un trait, un dard, des flèches de l'ennemi, un trait enflammé du malin. Prenez l'autorité dans le nom de Jésus, puis dites, je rejette ce dard dans le nom de Jésus, puis la douleur va s'en aller. C'est pas arrivé juste une fois, c'est arrivé souvent que je connais du monde qui ont fait ça, puis ils s'enlèvent des dards. C'est des attaques, c'est des maux, des souffrances que Jésus a déjà payé, puis on a la victoire, puis on peut proclamer notre foi, le dire, le témoignage, notre témoignage, on raconte qu'on l'a, cette autorité-là, puis si vous êtes capable de le confesser, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour être dans la victoire. Amen.
Amen.
Prions. Père Seigneur, merci pour ta parole qui est vraie. Merci pour l'œuvre accomplie de Jésus qui me donne de pouvoir marcher dans la victoire dans ma vie. Merci de toutes tes armes. Merci de l'œuvre accomplie de Jésus en sa mort sur la croix qui nous permet d'être dans cette victoire. Seigneur, nous voulons avancer par la foi. Nous voulons persévérer dans la foi. Nous voulons combattre contre nos ennemis. Puis merci de nous donner la victoire sur nos ennemis. Seigneur, délivre-nous du mal. Conduis-nous afin qu'on puisse être délivré du malin. Délivré de ses pièges, de ses ruses, de ses tentations. On n'ignore pas ses desseins, mais des fois on le voit pas venir et on tombe dans des pièges. Mais je te demande de nous pardonner et nous sortir de là, puis nous confessons que nous croyons en l'œuvre de Jésus qui nous assure la victoire. Puis merci de cette victoire dans le nom de Jésus. Amen.